Voici venue l'heure du voyage biographique. Partir grâce au documentaire sur la piste de ces hommes et femmes d'exception qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Quelle fut la vie de celle ou de celui qui fit œuvre? Comment l'œuvre et la vie se nourrissent-elles l'une l'autre? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Toute une vie. Hiver 1954. À l'antenne de Radio Luxembourg, son insolence mesurée déclencha un élan populaire inégalé pour le droit au logement. Pour lui, le logement, le travail et la dignité devaient être considérés comme des dus et la société devait s'organiser pour que tous les hommes vivent dignement. Aujourd'hui, Hélène Bigot et Julie Béressy vous proposent le portrait de l'abbé Pierre, 1912-2007, c'est toute une vie d'un amour du prochain qui ne choisit pas qui aimer.
À la une ce matin, la canonisation laïque de l'abbé Pierre. Des admirateurs ont passé la nuit devant le Val-de-Grâce.
Déjà, quand j'étais dans la voiture du croque-mort pour aller du Val-de-Grâce jusqu'à la cathédrale, déjà, on marche au pas, on descend le boulevard Saint-Michel au pas, pas un klaxon. Les gens, tout le long des trottoirs, qui applaudissent. On arrive sur le parvis de la cathédrale, et il y avait tous les flics là qui étaient en rang, qui saluent, tout ça. C'était très impressionnant, vraiment très impressionnant. Quand on est rentré dans la cathédrale, les gens, là aussi, ont applaudi. Et puis, là aussi, les compagnons d'Emmaüs, devant les corps constitués, devant Monsieur Sarkozy, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, d'abord, il y avait les compagnons. C'était pas les hommes politiques en premier, quoi. Une palanquée d'évêques, ils étaient, je ne sais pas combien, ils étaient une trentaine là, d'évêques là, dans le chœur. Ah bah, c'est quand même pour rien. Il y a eu deuil national.
Il aurait sans doute inspiré Victor Hugo. Plus qu'à des obsèques, cette scène évoque la naissance d'un personnage de roman. Tous les ingrédients sont là. D'abord, il y a le costume, le béret, la cape et la canne. Il porte à la fois la soutane du prêtre et la vareuse du résistant. Il a le coup de gueule révolté d'un rebelle et la barbe du moine capucin. C'est un homme d'église, mais Emmaüs, son œuvre, est laïque. Prophète pour Pierre Bourdieu, saint des temps modernes pour une partie de la presse, élu 17 fois personnalité préférée des Français, cet homme a su dessiner son personnage et construire un mythe. L'abbé Pierre est né. Abbé Pierre, l'éternel révolté. Un documentaire d'Hélène Bigot et Julie Béressy.
Écoutez-moi, vous, dont les gosses dorment paisibles, au large, au chaud, le soir, n'avez-vous pas quelque peur pour leur destin? Si vous ne faites pas, vous, tout votre possible, pour les gosses de ceux qui n'ont pas de lit, qui sont à quatre et plus par paillasse, enfants, adolescents, garçons, filles et parents, souscrivez que la première tranche de l'emprunt soit couverte bien vite. Je vous en supplie. L'ouverture de plus de chantiers en dépend avant le prochain hiver.
Contrairement au héros des Misérables, Henri Grouès est né dans une famille bourgeoise. Car Abbé Pierre n'est pas son vrai nom. C'est un pseudonyme choisi en 1943 pour échapper à la Gestapo. C'est donc aussi l'histoire d'un résistant qui a sauvé des juifs, fabriqué de faux papiers, ouvert deux filières d'évasion et créé l'un des maquis du Vercors. Pour l'Église, il est frère Philippe. Car c'est aussi l'histoire d'un curé devenu député, d'une icône médiatique qui réussit à elle seule à incarner la cause du mal-logement en France et à travers le monde. C'est donc également l'histoire d'un grand fondateur et militant associatif. Brouillant sans cesse les pistes, l'homme de l'appel de l'hiver 54 superpose les histoires pour créer la vie et l'œuvre de l'abbé Pierre. Laurent Desmar, donc vous nous avez accompagné jusqu'ici à Neuilly-Plaisance devant cette maison qui est un lieu historique dans l'histoire d'Emmaüs.
Bah oui, c'est le lieu où tout a commencé. Hein. L'abbé Pierre était député à cette époque-là et il cherchait une maison pour pouvoir s'installer car il avait été viré pendant la période où il était député. Il avait une chambre qui était près du Café de Flore, par là. Et puis ensuite, un autre appartement qui était chez des diplomates sur l'esplanade des Invalides. Et puis un jour que la diplomate est rentrée sans prévenir, l'abbé Pierre avait installé sa menuiserie dans la salle de bain. Et alors la bonne femme lui dit « Enfin mon père, un homme d'église, mettre une menuiserie dans la salle de bain, enfin... » Et l'abbé Pierre lui dit « Oh, vous savez, j'avais un patron qui était du métier. » Voilà. Et alors ils l'ont viré et il a cherché une maison. Et cette maison, elle ressemble à la maison de son enfance, à Lyon, à Irigny exactement. Et l'abbé Pierre est tombé amoureux. Et puis finalement, il s'y est installé, il est monté sur le toit, il réparait la baraque, etc. Et évidemment, c'était un peu bizarre, ce curé député qui bricolait sa baraque. Tout le monde était un peu, les gens alentour étaient un peu interloqués de voir le bonhomme là. Et voilà, et donc il a loué cette maison en premier lieu, puis après il l'a achetée. Et c'est là que tout a commencé, c'est là qu'Emmaüs a commencé. D'abord, il a hébergé ici des jeunes, c'était une auberge de jeunesse. Quand il était député, il a rencontré dans ses voyages, et notamment quand il était au mouvement pour une confédération mondiale, il rencontrait énormément de jeunes en grande difficulté de spiritualité, et notamment dans les pays nordiques, où les jeunes voyaient à la fois les retours des camps de concentration et à la fois les images de Hiroshima, et ces jeunes désespéraient de l'humanité. Et donc l'abbé Pierre leur disait « Mais venez à Neuilly-Plaisance, chez moi, on parlera, on refera l'Europe, on refera, etc. » Et donc c'est comme ça qu'il a fait sa première auberge de jeunesse, qu'il a appelée Emmaüs, parce que ces jeunes retrouvaient l'espérance à Emmaüs. Emmaüs, pour les chrétiens, c'est un lieu où les compagnons du Christ qui marchent avec lui retrouvent tout d'un coup l'espérance quand ils le reconnaissent au moment du partage du pain et du vin. Et ça a bien porté son nom, puisque après, tant de gens qui étaient complètement désespérés sont venus pour retrouver l'espérance. On va rentrer parce qu'il pleut.
1947. L'abbé Pierre a gardé son pseudonyme, sa vareuse et son béret de résistant. Il est maintenant député MRP. Une femme l'accompagne, sa secrétaire, Lucie Coutaz. Ils se sont rencontrés sous l'occupation et ne se quitteront qu'à son décès en 1982. Si l'abbé Pierre est l'initiateur d'Emmaüs, projeté sous la lumière des médias, elle en est, elle, dans l'ombre, la force d'organisation. C'est dans leur engagement commun en tant que résistants qu'ils puisent un principe fondateur d'Emmaüs. Faire prévaloir la légitimité sur la légalité, le droit sur la loi, le permis de vivre sur le droit de propriété.
Une résurrection, celle du Palais Bourbon, et une naissance, celle de la 4e République. Voici l'Assemblée constituante. Monsieur Francisque Guay est un des chefs du MRP qui compte...
Dans l'après-guerre, il fallait tout remettre sur pied, y compris dans le monde politique.
Jean Rousseau, président du Centre Abbé Pierre Emmaüs Esteville.
Et donc, renouveler l'Assemblée, il y a eu le Conseil national de la résistance qui a amené de nouvelles idées. Et puis, on avait un De Gaulle qui cherchait à réunir, après-guerre, toutes les forces vives de la nation et surtout celles qui avaient pesé dans la résistance. Ce qui explique une présence très importante à tous les échelons et notamment... pour les élections, des militants de la résistance. Et donc c'est à ce titre que l'abbé Pierre a été invité à se présenter comme député, ce qui était classique pour un ecclésiastique à cette époque. Mais on se rappellera aussi qu'à cette époque, il y avait aussi beaucoup de députés communistes, enfin tous avaient été des personnes engagées dans la résistance. Et donc c'est comme ça qu'il a dit oui, et qu'il s'est trouvé... faire campagne en Meurthe-et-Moselle, et il a été élu député sur les listes MRP, qui était à l'époque le parti dominant dans l'après-guerre.
La maison, elle était toujours pleine, il y avait énormément de monde, et il avait reçu un infirmier d'un hôpital psychiatrique de je ne sais plus où, qui était dans les jeunesses ouvrières chrétiennes, et avec lequel il échangeait beaucoup, et cet infirmier avait eu comme malade Georges Le Guay. Alors il est venu, il a amené à l'abbé Pierre et il a raconté son histoire comme ça. Et il disait, j'étais au bagne, il était au bagne pendant plus de 25 ans parce que j'ai tué mon père. Et quand je suis revenu, ma femme était avec un autre homme et des enfants qui n'étaient pas de moi. Et donc ça m'a désespéré et j'ai tenté de me suicider. Et il avait été repêché, il avait été tenté de se suicider dans le canal Saint-Martin, repêché, on l'a emmené à l'hôpital, et puis l'infirmier est tombé avec lui et a dit, ben, je vais t'emmener chez l'abbé Pierre. L'abbé Pierre lui dit, qu'est-ce que je fasse pour toi? Moi, je n'ai rien à te donner, mais si tu veux, peut-être que tu pourrais me donner un coup de main à héberger les gens, avec toi, je pourrais en faire plus. Et c'est le début d'Emmaüs. Quand on reçoit un compagnon, il vient de nulle part, il est fatigué, il est usé, il est crevé, il n'en peut plus. Si on pouvait lui dire, ça tombe bien que tu sois là, parce qu'avec toi, on va pouvoir en faire plus. Avec toi, on va pouvoir aider davantage. On inverse la vapeur. On n'est plus là pour donner, on est là pour recevoir. Et la personne qui vient, elle se sauve elle-même en devenant sauveur des autres. C'était ça, la pensée profonde de l'abbé Pierre à ce moment-là.
Pendant tout le temps où j'étais député, l'indemnité parlementaire a servi à nourrir les premiers des hommes malheureux que j'avais recueillis. Le premier était un forçat qui s'était suicidé au retour du bagne. Et puis j'ai accueilli une famille qui venait d'être expulsée avec 3 petits bébés. Ils étaient dans la rue, dans la neige, au mois de décembre. Il n'y avait pas le choix. Leur donner des bonnes paroles et puis les laisser tomber ou leur dire « venez chez nous ». Nous n'avions pas de place. Mais on a enlevé le bon Dieu de la chapelle pour le placer dans un recoin de la maison. Et là, on les a installés. On a mis l'eau, le gaz. Et on peut dire que c'est le bon Dieu qui, le premier, a donné sa place au sans-logis.
Dans ces pauvres baraques, qui ne sont qu'un toit et rien d'autre, et dont le nombre est hors de proportion avec les besoins, des familles s'entassent 4 ou 6 personnes dans une pièce. Les sinistrés, a dit M. Daudry, devront se serrer cet hiver pour être tous à l'abri.
Alors, faut se rappeler qu'on est à la période d'après-guerre, donc beaucoup de logements ont été détruits par la guerre.
Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre.
On a un nombre important de personnes qui vivent dans des faubourgs, dans des bidonvilles faits de briques et de brocs. Donc beaucoup de misère, beaucoup de situations de non-logement ou de mal-logement. Et... au fond, l'abbé Pierre prend la mesure de l'importance du logement à ce moment-là.
Alors bon, il accueille plein de gens. Tout ça, ça vit sur sa paye de député. Hein. Il commence à prendre des lopins de terre à droite et à gauche pour pouvoir construire quelques petits logements. Et en 1952, il doit se représenter aux élections et il n'est pas réélu. Donc, la paye de député n'est plus là. Il y avait les compagnons qui étaient là et qu'il essayait d'héberger, qu'il fallait nourrir, et il n'avait pas d'argent. Et il va mendier notamment du côté de la Porte Saint-Denis, par là, et une des voisines le voit mendier, une des voisines d'ici le voit mendier là-bas à Porte Saint-Denis. Et elle vient voir les compagnons, et elle leur dit, vous savez, votre curé, il en fait des belles, je l'ai vu hier soir, il mendiait sur le boulevard de Saint-Denis. Les gars l'attendent, et quand il arrive, quand il revient, il l'engueule. Vous nous interdisez de mendier, vous nous dites que c'est pas bien, que c'est pas juste, et vous allez mendier à notre place, qu'est-ce que ça veut dire? Et il y avait Philibert, dont on a vu une photo là-bas, et puis Auguste Le Gall, qui était là, tous les deux, et ils discutent, et Philibert lui dit, eh ben, on peut arriver à s'en sortir si on va ramasser dans les poubelles, si on va ramasser les choses qu'on peut trouver, etc. Et l'abbé Pierre dit oui, on y va. Moi, j'ai toujours dit à l'abbé Pierre, comment un homme dont les parents étaient des grands bourgeois, vous êtes curé, comment vous avez pu accepter d'aller faire les poubelles? Il me dit, mais j'avais plus de sous, j'avais plus rien. Et il me disait que c'était possible, qu'on pouvait y arriver.
Je me vois encore les derniers jours d'octobre passant des après-midi entières avec 2 ou 3 amis à harceler par le téléphone tous les gens que je connaissais pour trouver ici 50 000 francs, là 100 000 francs qu'on nous prête pour arriver à avoir de quoi acheter cette maison. C'était en novembre. Et en décembre, janvier, on était très très dans la peine. Nous étions 200 hommes à travailler, on vivait de notre travail, mais les familles malheureuses affluaient tous les jours. Et puis avec le froid, tous ceux qu'on ramassait sur les trottoirs la nuit.
Donc ils ont commencé comme ça. Donc ils ont commencé sur l'état, ce qu'on appelait à ce moment-là, sur l'état de gadou. La gadoue, c'était les dépotoirs, les grandes, là où les poubelles déversaient toutes leurs saloperies. Et il y avait là une économie extraordinaire. Et avec les boîtes de conserve, on achetait des conserves. Avec le pain, quand on le vendait, on achetait du pain. Avec les semelles, on achetait des godasses. Et puis, Auguste, le Gall, il a dit, mais on peut aussi aller chez les gens et récupérer des vêtements. Lui, c'était le chiffonnier. C'était vraiment le chiffonnier. Et donc, ils ont commencé à faire aussi cette récupération de chiffons, de papier, de carton, etc. Et c'est la première règle d'Emmaüs. C'est là qu'est née la première règle. Jamais nous n'accepterons que notre subsistance dépende d'autre chose que de notre travail. C'était la première règle d'Emmaüs.
La communauté, à cette époque-là, c'est quelque chose qui est déjà assez ancien, l'utopie communautaire. Vous en trouvez des traces, au 19e siècle on en voit, au 20e siècle on en voit, on en verra aussi beaucoup dans les années 60-70. C'est pas quelque chose qui est très caractéristique d'Emmaüs, ni très novateur.
Axel Brodier-Dolino, historienne.
Et pourtant, faire une communauté de compagnons, c'est-à-dire des gens qui sont broyés par la vie, qui n'ont plus de raison de vivre, qui sont souvent des anciens légionnaires, des alcooliques, des hommes brisés parce qu'ils ont perdu leur ménage, leurs enfants, etc. Et leur dire, tu n'as plus de raison de vivre, eh ben viens m'aider à aider les autres. Et donc, remettre des gens qui n'ont plus rien en situation de donner, c'est un espèce de miracle qui est en fait, lui, très novateur et très intéressant.
Paris, c'est le bassin de la Villette, pris par le Gène. Les écluses immobilisées. C'est le canal Saint-Martin qu'on traverse à pied sec.
Et les gars sont sur le boulevard Sébastopol, en haut du boulevard Sébastopol, ils s'arrêtent au feu rouge, ils avaient été porter la soupe, ils s'arrêtent au feu rouge, et il y a un tas de chiffons sur le trottoir. Les gars, ils descendent, ils ramassent les chiffons, dans les chiffons, il y avait une dame qui était morte de froid, et qui tenait, qui avait sur elle le billet par lequel elle venait d'être expulsée de son logement. Donc les gars téléphonent à l'abbé Pierre, disent « c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, il faut faire quelque chose ». Et l'abbé Pierre écrit son discours avec Georges Verprat, qui était un journaliste à l'époque. Mes amis au secours, il faut m'aider, il faut apporter des poils catalytiques, apporter des choses comme ça. Et il va le dire à Radio Luxembourg.
Mes amis au secours, chaque nuit, ils sont plus de 2000, recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait couverture, paille, soupe, et où on lise sous ce titre « Centre fraternel de dépannage » ces simples mots « Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir ». Ici, on t'aime.
Là, la France entière est dans un froid mordant. Il fait moins 10 à Paris, moins 30 en Alsace, etc. Tout le monde ressent l'urgence de la situation, d'une part, et tout le monde connaît l'ampleur du mal-logement, d'autre part, puisque c'est un mal-logement qui, à cette époque, est tellement important qu'il transcende les couches sociales et qu'il n'est pas du tout uniquement limité aux couches populaires, mais il concerne aussi les couches moyennes, etc. Donc tout le monde est conscient de cette urgence. D'autre part, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe un petit peu avant l'appel du 1er février 54. C'est ce qui se passe au mois de janvier. Et ce qui se passe au mois de janvier, c'est d'abord la demande de l'abbé Pierre de faire voter un amendement pour la construction de cités d'urgence. Cités d'urgence, c'est vraiment la solution pour mettre les gens à l'abri de toute urgence. Donc c'est une demande politique de la construction qui est vraiment du registre politique et administratif, construire des logements, d'une part, et sa demande d'amendement va être rejetée par les députés. Elle est remise sine die, c'est-à-dire autant dire qu'elle est rejetée. D'autre part, quelques jours après, il fait publier en une du Figaro un appel au ministre du Logement, et donc là, à nouveau, on est dans le registre politique. Et c'est parce que ce registre politique va échouer qu'il va se tourner vers un registre plus caritatif, des soupes de nuit, rameuter les journalistes, etc., aller apporter des couvertures à ceux qui sont dehors, et finalement, la dame qui meurt de froid avec son papier d'expulsion, c'est le catalyseur qui fait passer à l'appel médiatique et quasiment prophétique.
Une chose est certaine, c'est que ces prises de parole, ces coups de gueule ou ces analyses avaient de la portée. Ça tient beaucoup, au-delà des mots, à l'insincérité totale. C'est-à-dire que celui qui écoute sait qu'il est en train d'écouter quelqu'un qui ne parle pas pour lui, qui fait, qui agit, qui a les mains dans le cambouis, les pieds dans la boue, Et je pense que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est-à-dire que, du coup, on tend l'oreille. Du coup, on n'est pas en train de se dire, mais pour qui il roule, celui-là? Et du coup, on est pleinement concentré sur ce discours. Après, faut pas se leurrer, il y avait de bons choix de formule aussi. Et puis, c'était toujours incarné. Cet appel de 54, c'est ça. C'est « Mes amis, au secours ». Donc déjà, c'est « Vous engagez les personnes ». Une femme est morte, donc on n'est pas en train de parler de millions de personnes. Cette dame est morte, tenant entre les mains le papier qu'il avait fait expulser la veille. Et elle est morte de froid. Et on a besoin de vous. Donc, il y a la dimension très sociale, sociétale, très fraternelle, qui renvoie à l'action, au coup de gueule, mais aussi à l'exigence. L'exigence de faire société. C'est-à-dire que c'est tout l'opposé de l'individualisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans les autres.
Et le journaliste lui dit, mais où il faut porter? Et l'abbé Pierre avait dans sa poche une lettre de Madame Larmier, qui était patronne de l'hôtel Rochester à Paris, et qui lui disait, vous avez entendu à l'émission qui tout double, moi j'ai deux chambres qui sont inoccupées parce qu'il fait très froid en ce moment, si vous voulez, vous pouvez venir occuper ces deux chambres. Et l'abbé Pierre dit au journaliste, bah, vous n'avez qu'à apporter ça à l'hôtel Rochester. Et la bonne femme a vu arriver chez elle des tas de gens avec des matelas, des sommiers, des machins, des ceci, des cela, parce que immédiatement les gens se sont vraiment rués. C'est toujours ce qu'on dit. Cette capacité à faire venir les gens avec lui. Cette capacité à convaincre les gens qu'il faut agir. Il était hyper doué pour ça. Là, les gens ont répondu tout de suite. Mais vraiment, ça a été ce qu'ils ont appelé l'insurrection de la bonté. Ça a donné cette force-là. Des tas de gens qui venaient le voir pour lui se mettre à son service. Des gens qui lui amenaient de l'argent, beaucoup. Puisqu'il a rempli les baignoires de l'hôtel Rochester avec le fric, quoi. Hein. Bon, c'était... Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de chèque, il n'y avait pas de virement. On envoyait dans des enveloppes, on envoyait des billets de 100 francs, quoi. Hein. Alors après, mais il y avait tellement, l'hôtel était plein, et puis il fallait. Alors donc, il a été trouvé le préfet de police de Paris, qui lui a dit, mais vous pouvez peut-être aller à la gare d'Orsay qui est désaffectée. Et ils ont été à la gare d'Orsay, mais ça s'est rempli aussi très très vite. Et ils ont été obligés d'étayer la dalle de la gare d'Orsay, parce que sous la gare d'Orsay passe le train, et il fallait étayer tellement on avait peur que la dalle elle s'effondre tellement il y avait des choses.
Donc il y a une ampleur phénoménale en France, et il y a un écho aussi à l'étranger. Il y a beaucoup de pays qui vont relayer cet appel, et le Vatican va le relayer aussi. Il va y avoir des articles dans la presse du Vatican. Donc en fait, c'est un appel qui va avoir un écho mondial. Jusque au Japon, au Liban, en Amérique latine, dans pas mal de pays d'Europe, pays d'Asie, pays d'Amérique latine, en Amérique du Nord aussi, et notamment par le registre religieux et par le Vatican. Donc il y a une énorme diffusion à la fois française et mondiale qui donne une dimension effectivement sans précédent à un appel français par un fondateur associatif qui en fait était quand même à cette époque-là vraiment pas très connu.
On le mesure encore aujourd'hui. Le fait qu'il ne soit plus là, c'est difficile de pouvoir dire des choses, de pouvoir intéresser, faire l'événement, etc. C'est difficile. Mais lui, il avait, par sa personnalité, par son charisme, par ce mythe Abbé Pierre, il était capable de mobiliser les gens.
Il a été mythifié parce que on en a fait un personnage prophétique, mais il a aussi contribué lui-même à faire son mythe. C'est-à-dire que, d'une part, il y a une consistance dans le parcours. C'est quand même quelqu'un qui a été à la fois moine, prêtre, résistant, député, grand fondateur associatif, donc il y a un parcours qui est extrêmement étoffé et qui prête au mythe. Et d'autre part, il s'est construit une image physique. Il a toujours gardé, par exemple, la canne. Elle servait dans les années 50, quand il était encore un peu tout seul dans les communautés, que les compagnons étaient des fois assez violents, elle lui servait à se défendre. Dans les années 50, il n'avait pas du tout besoin d'une canne pour marcher. C'était en fait une arme de défense. Et il l'a gardée parce que ça avait fait partie de son personnage. À la fin, évidemment, ça l'aidait à marcher, c'était en quelque sorte un peu un adjuvant pratique, mais il était pleinement conscient que ça participait de la construction de son personnage. De même, le béret, il n'a jamais fondamentalement besoin d'un béret, ni d'une cape, la soutane du pèlerin ou du prêtre, il n'en avait pas fondamentalement besoin. Donc lui, il a toujours revendiqué cette construction de l'image fixe avec ces trois instruments, la cape, la canne, le béret, à travers le temps. Il était vraiment conscient que c'était la base de son personnage médiatique. Il a construit une parole aussi qui se prêtait à cette mythification. Mais effectivement, il y a mythification si on postule qu'il y a besoin d'avoir un mythe dans des sociétés. Et à ce moment-là, en 54, comme dans les années 80 ou encore dans les années 90, il y avait besoin d'avoir des héros du caritatif. En 54, parce que c'était une énorme crise du logement et que, en fait, personne ne faisait vraiment quelque chose. Les pouvoirs publics n'ont pas fait grand chose jusqu'en 53, jusqu'au plan courant, et encore en 53, c'était encore petit et il n'y avait pas du tout les fruits qu'il avait portés. Donc il y avait vraiment besoin d'une action, et lui, il a pris les choses à bras le corps et il a tout à coup fait émerger une parole politique, prophétique. Il s'est vraiment érigé en prophète, et on l'a érigé en prophète de notre société moderne, cette espèce de prêtre, de figure religieuse, caritative, charismatique, qui fonctionnait aussi beaucoup sur des coups de gueule. Il avait quand même une grande capacité oratoire à s'exprimer de façon virulente, de façon percutante, mais en même temps, comme c'était un prêtre, et ben, tout était permis. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une figure de prophète.
L'appel du 1er février 1954 a agi comme un détonateur. Partout en France, en Europe, dans le monde, des femmes et des hommes reprennent le modèle de la communauté Emmaüs. Celui qui avait voulu se retirer du monde à 19 ans en devenant moine capucin devient une célébrité mondiale. Mais les politiques ne suivent pas. Après un vote de façade, le gouvernement français ne dégage finalement pas assez de fonds pour construire les 12 000 logements promis à la suite de l'appel. Et à partir de 1957, l'abbé Pierre ne dirige plus rien.
Il y a une énorme activité de l'abbé Pierre entre 54 et 57. Il est appelé absolument partout en France, partout dans le monde, pour faire des conférences, pour parler de son appel, pour diffuser ses idées, pour appuyer la création de nouvelles communautés, etc. Donc une période extrêmement intense entre 54 et 57, où il est aussi assez souvent malade, parce qu'il a toujours été de santé fragile, et il est de plus en plus fatigué, il va être hospitalisé un certain nombre de fois. Et surtout, en fait, il se passe quelque chose que on a longtemps pas compris, c'est que il a un petit penchant pour les femmes. En fait, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est avant Vatican II, on est dans les années 50. Vatican II, c'est à partir de 1962. On est dans les années 50, dans une France qui est encore très traditionnelle. Et l'abbé Pierre, à cette époque, c'est quelque chose qui a visiblement parcouru un peu sa vie, a manifesté des tentations pour des femmes. Et ça s'est su, et c'était pas entendable dans la société de l'époque. Et donc on essaye quand même de faire attention à ce que l'abbé Pierre ne dérape pas trop. Et à un moment, il faut l'écarter parce que il est fatigué, il est malade, et parce qu'il y a cette question du rapport aux femmes qui devient compliquée. Et donc on le place en clinique psychiatrique en Suisse pour lui faire faire une cure de sommeil. Et en fait, c'est une façon à la fois pour l'Église et pour le mouvement de le mettre à l'écart parce que ça devient un peu compliqué à gérer. Et il est vraiment victime d'une cure médicamenteuse qui est extrêmement solide et costaud. Et il y en a qui pense qu'il s'en remettra pas. Et en fait, petit à petit, à partir du milieu de l'année 1958, il commence à reprendre du poil de la bête. Et là, du coup, c'est une nouvelle période de sa vie qui s'ouvre. Il va, de façon beaucoup moins médiatique, essayer de reconstruire Emmaüs. Ce qu'il a fait en France, il va essayer de le faire à l'international. Et donc, patiemment, il prend son bâton de pèlerin et il va répondre aux appels qui continuent, peut-être pas d'affluer, mais en tout cas d'arriver, pour épauler la création de nouvelles structures en Argentine, au Japon, au Liban, en Afrique. Et donc comme ça, il a un certain nombre de sollicitations et il va développer des structures Emmaüs à l'international. Et pendant 10 ans, comme ça, jusqu'à la fin des années 60, il parcourt le monde, il voyage et il essaye de fédérer internationalement des structures qui veulent s'affilier au mouvement Emmaüs.
Toute son existence, depuis la plus jeune enfance jusqu'au dernier moment de sa vie, il y a eu une espèce de cycle dans son existence qui était action. Il se balançait, il allait dans l'action, mais alors il s'y donnait, mais complètement à fond, et il se heurtait à des difficultés, il se heurtait souvent à des problèmes de personnes qui étaient plus difficiles, etc. Et ces difficultés le mettaient KO complètement. Donc il s'effondrait, il s'écroulait avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de... Et là, il tombait vraiment malade, quoi. Il y avait vraiment des maladies. Il y a des hémorragies intestinales, des choses comme ça. C'était vraiment des maladies, quoi. Et là, obligé de rester au lit, il se remettait à lire, il reprenait un petit peu de force, travaillait sur lui-même, etc. Et le voilà reparti, et il se retournait dans des difficultés. Et ça n'a fait que ça toute sa vie. Toute sa vie, ça a été ça. Donc les maladies dont il a été victime sont des maladies qui venaient de ses combats, quoi. Réflexion, action, toujours liées. Et ce qu'il disait tout le temps, on me dit que je suis un contemplatif, mais je suis aussi un actif. La contemplation ne peut pas aller sans l'action.
C'est pas un intellectuel à proprement parler qui élabore des théories ou qui se dit voilà ce que peut être le monde de demain. Il part du concret. Et le concret, pour lui, c'est les plus pauvres, c'est les gens à la rue, c'est les ouvriers qui n'ont pas de boulot, c'est tous ces désordres qu'il observe et que beaucoup observent aussi dans leur région. Je pense par exemple quand l'abbé Pierre est allé en Inde, il a rencontré les héritiers de Gandhi avec qui il a échangé sur la grande pauvreté en Inde, sur le fait qu'on pouvait trouver des solutions... propre à chacun des pays. Et donc, cette vision un peu mondialiste, et cette façon de résoudre des problèmes concrets, qui est simple, on part de ce qu'on vit chez nous et on imagine des solutions par soi-même, ça parle à tout le monde, quelle que soit la culture, quel que soit le contexte, et ça sort les gens de cette espèce d'inquiétude ou d'abattement ou de fatalisme pour certains. Et donc, ils se prennent en main, en fait. C'est ça qui intéresse, qui motive. Et ça parle dans toutes les civilisations. Et on voit bien, par exemple, Emmaüs au Japon, qui a une culture tout à fait particulière, au Japon ou en Corée, qui sont quand même des civilisations où le rapport à la famille, au travail, aux politiques est différent. Eh bien, il a trouvé des gens qui se sont dit, nous aussi, on va trouver nos propres solutions pour venir en aide aux personnes qui sont oubliées, qui sont laissées de côté, qui sont exclues.
Où puisait-il l'énergie de ces combats ?
Sa foi. Ça, c'est clair. C'est clair. C'est difficile pour moi de dire ça parce que je suis président d'une fondation laïque. Et donc, il faut quand même que... Mais quand même, quand l'abbé Pierre disait « Le corps du Christ, c'est le pauvre ». Parce que quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Quand j'avais froid, tu m'as couvert. Quand j'étais malade et en prison, le corps du Christ est le pauvre. Et pour lui, c'était ça. Quand il allait chercher les gens les plus pauvres, il y avait ça derrière. Alors c'est quelque chose que la Fondation ne revendique absolument pas du tout, quoi. C'est cette ambiguïté-là qui est difficile.
Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'il mettait aussi peu sa religion en avant ?
Parce qu'il voulait s'adresser à tout le monde. Parce que le devoir de combattre la pauvreté devait intéresser tout le monde. Pas simplement que les uns ou les autres. Ça devait intéresser tout le monde. Parce que devant l'humanité, devant l'enfant qui n'a pas ce qu'il faut, devant la petite vieille qui a du mal, on doit tous être ensemble. Il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a que la personne qui souffre.
Aucun visage ne me regarde, et sur les quelques pièces que je glane, à la sortie des magasins, après l'office, le côté face aussi me donne le profil.
Le soleil tombe avec les degrés, depuis ce matin je marche, mais là mes pieds sont lasses, il faudrait que je pense à me poser, que je me trouve un porche ou un coin tranquille, bien abrité, à l'écart des regards, la tolérance est souvent mal imitée, parfois j'aimerais être invisible, tout comme ces fantômes, et ne pas voir ces yeux qui ne me regardent pas comme on regarde un homme.
L'homme et les hommes, ils les découvrent d'abord quand ils voient son père. Il a 8 ans à ce moment-là, aller s'occuper le dimanche matin des pauvres dans la rue.
Jean-Marie Viennet, prêtre, confesseur de l'abbé Pierre.
L'homme et les hommes, ils les découvrent en faisant connaissance, quand il était scout à Assise, de François d'Assise, riche, qui rencontre un lépreux qui va faire basculer sa vie. L'homme, il le découvre en vivant 7 ans à Crest, chez les Capucins, il vit là une expérience radicale. Les Capucins, c'est une partie des gens qui sont nés de François, c'est-à-dire avec une simplicité absolue, un dépouillement profond. L'abbé Pierre racontait cette expérience forte, difficile. Mais pour le père, ça l'a habité toujours. Ceux qui l'ont rencontré savent bien, hein. Même chez lui, même dans tout, il vivait dans des plus grandes simplicités. Ça lui paraissait indispensable de ne vivre qu'avec le nécessaire.
Un sapin de 15 mètres de haut trône majestueusement depuis ce matin devant le siège du journal François rue Réaumur à Paris. C'est le sapin de l'abbé Pierre qui, comme il l'avait fait il y a une trentaine d'années, lors d'un hiver particulièrement rigoureux, lance une opération pour venir en aide à ceux que l'on appelle les nouveaux pauvres, pour lesquels Noël cette année sera particulièrement dur. Philippe Royer, vous êtes
alors,
sur
dans
place,
les années 80, on est dans un autre contexte. C'est l'arrivée de la crise économique et sociale qui puise aux années 70, avec notamment deux chocs pétroliers. Et puis, il y a une lame de fond plus souterraine qui est en fait due à l'épuisement de la prospérité des Trente Glorieuses. Une fois que chacun a deux frigidaires et trois voitures, on peut difficilement en acheter plus. Et donc, la prospérité s'épuise. On a atteint une société de consommation assez généralisée. Et petit à petit, il y a une lame de fond du chômage qui commence à se développer. D'abord chez les jeunes, et puis le chômage de longue durée, et puis etc. Donc il y a une série de nouveaux publics qui sont petit à petit touchés par la crise, et à partir du début des années 80, ça devient vraiment un phénomène médiatique. On redécouvre des morts de froid dans les rues. En 1982, c'est le premier hiver où les journalistes médiatisent cette question des sans-abri, et donc on va chercher des figures capables de porter ces nouveaux pauvres. Et en fait, il y en a très peu. Et donc finalement, la figure qu'on va aller ressortir, c'est l'abbé Pierre. Les médias lui demandent de revenir sur les plateaux télé. Quand il y a des entretiens avec le Premier ministre ou le Président de la République, on va le ressortir. Et donc en 82-83, quelque part, il ressort de sa boîte où il était un peu retombé dans... pas dans l'anonymat, mais en tout cas dans la discrétion. Et il redevient une figure médiatique.
C'est à ce moment-là que dans les années 80-90 vont naître tout un mouvement associatif, et là l'abbé Pierre prend une place très importante, mais d'autres aussi. C'est là que Coluche fait naître les Restos du Cœur, et on voit naître tout un tissu d'associations qui viennent finalement tenter de compenser les effets de cette crise sur le front notamment de l'emploi, mais aussi sur le front du logement et les trous dans la raquette de la protection sociale, en quelque sorte. Et donc à ce moment-là, il y a une ébullition pour essayer d'apporter des réponses. Alors, législative, il y a la loi de lutte contre les exclusions de 1998. Avant, il y avait eu la loi pour le logement des personnes défavorisées de 1990. Et aussi associative, par la main tendue des associations qui cherchent à apporter des réponses aux personnes.
Depuis l'abbaye de Saint-Vendry, en Normandie, un autre message, celui de l'abbé Pierre pour les déshérités. L'abbé Pierre pour lequel nous sommes tous coupables d'indifférence lorsque nous écoutons les voix de la majorité ou celles des nantis.
Nous avons la chance, et il faut le défendre, d'être dans une démocratie. Ce qui fait la beauté d'une démocratie, c'est que le pouvoir tient compte de l'opinion publique. Seulement, lorsque, Dieu merci, il s'agit d'une société où la misère n'est pas la majorité que va écouter le pouvoir ne dit pas « nous voulons que les solutions au drame de la misère soient prioritaires ». Si, quand nous blâmons l'État, l'administration, les élus, etc., mais puisque nous sommes en démocratie, commencer par nous engueuler nous-mêmes. Car si nous, nous montrions que nous voulons que la construction de logements soit prioritaire, mais les élus ou les candidats, parce qu'ils veulent être élus, ils le feraient. Et c'est en réalité parce que la majorité qui est à l'aise s'en fout. Et c'est là notre culpabilité.
Manifestement, même dans des sociétés riches comme la nôtre, en France, des inégalités se creusent, des exclusions se produisent. Et donc, il est extrêmement important de comprendre qu'est-ce qui amène au fait qu'il y ait plus de 9 millions de pauvres en France aujourd'hui, qu'il y ait 4 millions de mal logés, 300 000 personnes sans domicile. Comprendre les mécanismes, les parcours des individus, des familles, évaluer les politiques publiques et puis chercher à établir des propositions nouvelles. Donc ça, c'est un travail que l'abbé Pierre fait en jouant sur ses deux jambes. J'agis, j'essaye de comprendre et je propose. Mais évidemment, son levier principal pour mener ce deuxième pilier de son action, c'est l'utilisation des médias. Pour faire caisse de résonance, pour rendre visible ce qu'on ne veut plus voir, parce que si on voit la misère, ben, il faut bien agir dessus. Et donc, réhabiliter les personnes, rendre compte de ce qui se passe quand soi-même on est bien au chaud, on ne mesure pas toujours ce que vivent nos compatriotes les plus fragiles. Et donc, il s'appuie sur les médias pour le faire. C'est vrai en 1954, c'est vrai, je crois que c'était sa dernière sortie médiatique en 2006, quand un certain nombre de parlementaires avec le gouvernement voulaient modifier la loi Solidarité et Renouvellement Urbain qui impose 20% de logements sociaux. Il est monté au perchoir sur sa chaise roulante pour dire « vous êtes en train d'oublier les petits ». Et de cette prise de parole, il y a eu renoncement de modifier la loi. Donc, c'est prendre à partie les gens, les informer, leur dire « c'est pas possible », et puis aussi faire un combat politique pour peser dans le débat public grâce à la voix des médias.
Est-ce aussi la liberté, égalité, fraternité ? J'en ai bien peur. Le monde de demain, tant qu'il a pris, nous appartient. La puissance est dans nos mains, alors écoute ce refrain. Quelle chance d'habiter la France. Dommage que tant de gens fassent preuve d'incompétence.
Dans l'insouciance générale, les fléaux s'installent normal.
Dans mon quartier, la violence devient un acte trop banal. Alors, va faire un tour dans les banlieues, regarde ta jeunesse dans les yeux. Toi qui commandant au lieu, mon appel est sérieux. On ne prend pas ça comme un jeu, car les jeunes changent. Voilà ce qui dérange.
Dans les années 90, il s'émancipe un peu d'Emmaüs pour aller porter une parole politique très aiguisée, très offensive, très dénonciatrice, aux côtés par exemple de Droit au Logement, qui est une toute petite association à cette époque-là, mais une association très militante, très virulente, qui agit notamment par les squats. Et les squats, en fait, c'était le mode d'action des années 53, 54, 55, 56, de cette période autour de 1954, à laquelle l'abbé Pierre avait contribué, en tout cas du moins son bras droit, il avait cautionné un certain nombre de squats. Les années 90, c'est un peu le vieil abbé Pierre qui reprend une nouvelle jeunesse sur ce mode des squats, d'une parole très politique, dénonciatrice, aiguisée pour la défense des sans-logis, des sans-papiers, etc., aux côtés de Dalle et de Jean-Baptiste Hérault notamment, et on le voit participer entre 90 et 94 à tous les grands squats de ces années, la place de la Réunion, quai de la Gare, l'esplanade de Vincennes, l'avenue René Coty, la rue du Dragon, etc. Tous les ans, il est dans une grande mobilisation.
Ne pas déloger les mal logés, c'est la promesse faite par Édouard Balladur à l'abbé Pierre après l'opération de la rue du Dragon. L'association Droit au Logement a occupé hier à Paris un immeuble vide pour y abriter une vingtaine de familles.
Ah, ça paye pas de mine, hein. On doit faire à tout casser 8 mètres de large.
Jean-Baptiste Hérault, porte-parole de l'association Droit au Logement.
Moi, je suis arrivé avec l'abbé Pierre, que j'avais été chercher à Esteville. Il avait eu l'heureuse idée de dire, bah écoute Jean-Baptiste, trouve-moi un hélicoptère et le problème est réglé. Histoire de ne pas déranger tous ses proches et tous ceux qui venaient le voir et puis écouter sa messe, c'est un dimanche. Tous les gens seront contents, ils vont nous voir décoller du champ de pommiers et ça va leur faire un bon souvenir. Et effectivement, ça a bien marché, on a trouvé un hélicoptère qu'il a payé. Et on est arrivé à ici, les Moulineaux, et ensuite ici. Puis dès que la préfecture de police a eu confirmation que l'abbé Pierre arrivait, les policiers se sont pliés et nous ont laissé champ libre. Là, on est rentré, et beaucoup de monde, à la fois des mal logés, des sans-logis. Ça tapait dans les étages pour démurer les logements. Les logements avaient été démurés. Et puis l'abbé a fait une prise de parole dans la cour, à l'entrée de la cour, devant plusieurs centaines de personnes. C'était un moment fort. Alors ensuite, on s'est réunis dans une pièce avec le professeur Léon Schwarzenberg, Albert Jacquard, un avocat qui était avec nous, un militant, François Brotteau, et quelques autres. Et bon, j'ai proposé à l'abbé Pierre d'appeler Matignon. Donc il a pris le bebop, On avait à l'époque, on avait des bebop. Et il a appelé, voilà, ici, l'abbé Pierre. Je voudrais rencontrer le Premier ministre, discuter avec lui. Et on a été rappelé quelques minutes plus tard, et oh surprise, Édouard Balladur nous reçoit. Et donc, on y va, en délégation. Et bon, évidemment, Balladur rassure l'abbé Pierre en disant « Mon père, vous ne vous inquiétez pas, nous n'enverrons pas la police ». À partir de là, le Premier ministre Édouard Balladur de l'époque était en concurrence avec Jacques Chirac pour la campagne présidentielle l'année d'après, a sans doute trouvé aussi une bonne occasion de faire la nique à son concurrent. Chirac faisait campagne sur la fracture sociale, donc voilà. Mais en tous les cas, c'est sûr que l'arrivée de l'abbé Pierre et le soutien de l'abbé Pierre dans les combats qu'on a pu mener a été déterminant hein, pour faire avancer la cause générale des mal-logés et des sans-logis. D'ailleurs, les avancées législatives qu'on a obtenues sont, je dirais, l'alliance entre la mobilisation et les luttes des mal-logés, du DAL et d'autres, hein, et de l'abbé Pierre. Bon, on était soutenu quand même aussi par Emmaüs. Hein. Emmaüs, quelques minutes plus tôt, avait déchargé des meubles, des matelas, etc. Bon, ils venaient à chaque occupation avec leur camion. Et bon, ça faisait des images de France 2, TF1, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il manque pour amplifier, en fait, le combat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va plus parler d'un couple de retraités qui se fait squatter sa résidence secondaire que des familles qui sont à la rue et qui vont occuper un immeuble de ville. On va même, d'une certaine manière, aujourd'hui, il y a quand même une tendance quasiment à criminaliser, à discréditer, à critiquer les personnes à la rue qui vont se protéger, qui vont s'installer dans un logement vide. Il y aurait l'abbé Pierre, je pense qu'il n'y aurait pas 3 millions de logements vacants en France. Voilà. À l'époque, dans les années 90, on était à 1,6 ou 7 millions. Bon. Donc, voilà. Donc, là, tout est dit. Et on produit moins de logements sociaux. Et les loyers ont été multipliés par 2 ou 3. Les prix de l'immobilier par 5 ou 6. C'est ça, en fait.
France Inter.
Mais d'abord, le dernier épisode en date de la sombre affaire Garaudy-Abbé Pierre. Suivant la procédure judiciaire classique, l'ancien philosophe marxiste converti à l'islam, Roger Garaudy, a été mis en examen pour contestation de crimes contre l'humanité. Dans son dernier livre, Garaudy mettait en doute l'ampleur du massacre des Juifs commis par les nazis. Comme si ça ne suffisait pas, il a demandé et obtenu le soutien de son vieil ami l'abbé Pierre, qui appelle à un grand débat sur le révisionnisme aux grandes dames des associations humanitaires et caritatives.
Ce qui va mettre un coup d'arrêt, c'est à la fois son âge, parce qu'il commence à pu être tout jeune, et l'affaire Garaudy en 96, où il s'enferre dans un soutien à son ami des bancs de l'Assemblée nationale des années 50, Roger Garaudy, mais qui vient de sortir un ouvrage quasiment négationniste, et du coup, il s'enferre dans une parole politique qui est intenable, et à nouveau, Emmaüs doit l'exfiltrer. Donc cette fois, on l'exfiltre en Italie et pas en Suisse.
L'abbé Pierre est un homme d'amitié. Et quand je dis amitié, c'est de confiance absolue, ce qui lui a parfois joué des tours avec des personnages qui ont voulu l'escroquer ou des choses comme ça. Et donc, lorsque Garaudy l'appelle pour lui avoir son soutien à l'occasion de la sortie de ce livre, l'abbé Pierre lui donne son soutien sans même se poser de questions, et il le reconnaît lui-même sans avoir lu le livre de Garaudy. Moi-même, je suis allé rencontrer l'abbé Pierre dans cette période difficile où il était réfugié, pour lui dire qu'il fallait absolument arrêter, que le travail de Roger Garaudy ne méritait rien du tout. C'était pas un travail sérieux. Et donc, je pense qu'il y a tous ces éléments, ce manque de préparation face à une stratégie très élaborée de Garaudy de glaner des soutiens, ce manque d'entourage, ce manque de culture historique. Mais au final, l'abbé Pierre a tout de même cédé. C'est-à-dire qu'il a bien vu son erreur. Et finalement, ça a été peu relayé après. Mais il a demandé pardon pour tout ça, pour son entêtement, pour ses erreurs, pour le mal qu'il avait fait. Mais c'est vrai que ça a été un errement terrible pour lui et pour nous autres d'Emmaüs.
Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien.
Novembre 2020, accueil de jour pour les sans-abri. Emmaüs Solidarité, 32 rue des Bourdonnais, Paris.
Allez, c'est bon, madame Poupon. Hop, passe en un instant, s'il vous plaît, monsieur dames, c'est bon.
Elle m'a orienté vers une adresse.
Voilà.
C'est
bon, vous voulez du thé? Du thé avec combien de sucre, s'il vous plaît?
Deux sucres, oui. Okay.
Voilà, monsieur, bonne journée. Un café. Combien de sucre, s'il vous plaît? Merci.
Vous êtes là tous les jours? Vous
oui,
travaillez?
Je suis là tous les jours, je suis intérimaire et je suis là depuis un mois et demi.
Et vous liez contact avec certaines personnes, j'imagine, qui reviennent tous les jours?
Je peux compter à certaines personnes, ils sont vraiment sympas. Elles arrivent au matin, ils viennent tout souriants, et puis bon, ils sont déjà habitués. Une fois qu'elles sont habituées, ils s'ouvrent quoi. En fait, que cela, il y a elle déjà que je connais, Elodie.
Oui, bonjour. Je vais prendre deux cafés, s'il te plaît.
Déjà, je me suis déjà habitué à eux. Il y a d'autres qui prennent la dose de deux sucres, un sucre, il y a d'autres qui prennent sans sucre. Donc, au fur et à mesure, je connais un peu. Donc, il y a d'autres qui viennent me saluer, je les donne directement, sans même demander.
Donc, Elodie, c'est pas de sucre?
Si, moi, c'est un. Ouais. Et un deuxième, s'il te plaît, c'est pour mon chéri.
Elle vient avec son chéri.
Voilà. Merci beaucoup.
Vous venez tous les jours prendre le café?
Oui, tous les jours, oui. On est habitués, on vient tout le temps, on fait la douche, on prend le café, et puis voilà. C'est un matin comme les autres, comme tous les matins. Merci.
Là, l'enjeu qu'on a à l'heure actuelle, c'est d'ouvrir des structures. Alors, à titre d'exemple, cette semaine, nous avons ouvert 3 structures parce qu'il faut impérativement mettre à l'abri des personnes qui représentent en gros une capacité de 240 places, notamment un ancien hôtel qui était pénalisé par la crise économique, conséquence de la crise sanitaire, qu'on a mis à notre disposition de manière à pouvoir héberger 85 personnes.
Bruno Morel, directeur général d'Emmaüs Solidarité.
Donc il y a à la fois un enjeu de solidarité, de mise à l'abri. Il y a aussi un enjeu de non-opposition des précarités. SDF contre migrants ou personnes isolées contre familles. C'est pour ça que nous, on prône l'accueil inconditionnel et la nécessité pour toute personne d'avoir un toit. Et quand je dis un toit, c'est aussi avoir ensuite, après une phase d'hébergement, avoir aussi un logement. Et une des difficultés qu'on a à l'heure actuelle, c'est malgré, là aussi, j'ai parlé d'efforts, il y a des efforts en matière de création de places d'hébergement, il y a des efforts en matière de logement, mais il n'y a pas assez de logements à coût abordable pour nos difficultés. Et c'est d'autant plus important que la crise sanitaire, je vous parlais de conséquences économiques, fragilise les personnes. Mais ce qui, voilà, je voudrais mettre un petit message d'espoir, c'est que à l'aune de cette crise, on a vu qu'on était en capacité de mobiliser des solutions. Et ce que je voudrais, c'est que, et c'était un peu le sens du message de l'abbé Pierre, qui se révoltait sur le fait que certaines institutions se mobilisaient que sur des périodes de crise, la lutte contre la pauvreté est un combat de tous les jours, pas simple, et on ne doit pas y répondre simplement sous la pression de l'actualité ou sous la pression des considérations climatiques. Donc voilà, c'est le message de l'abbé Pierre, il nous porte à mener un combat quotidien pour des actions de fond et sur le long terme.
Le modèle de société de l'abbé Pierre, c'est pas la charité. Il y a de la charité quelque part. C'est pas du paternalisme. Il y a une logique globale de société. C'est-à-dire, chacun, on a quelque chose à apporter dans la société. Quelle que soit sa situation, quel que soit le parcours. Ne jamais renoncer non plus. Ne jamais renoncer au fait que, face à des personnes qui ont vécu des choses très difficiles, on pourrait se dire, oh là là, cette personne ne remontera jamais la pente. Non, non, il faut toujours continuer. Et puis, une vision éminemment politique. Politique sur la solidarité, sur la redistribution des richesses, sur la nécessité de tout faire pour que personne ne reste sur le bord du chemin. Et ça, ça donne une force incroyable, parce que, vous savez, les discussions que nous, on a avec les politiques publiques, localement ou nationalement, avec le gouvernement, etc., il y a souvent un malentendu. Nous ne disons pas que rien ne se fait. On voit bien qu'il y a des choses qui sont faites. On voit bien qu'il y a des efforts qui sont faits. Mais absolument pas à la mesure de la violence que représente le fait de vivre à la rue ou de vivre dans la pauvreté. Et donc, il ne faut jamais lâcher. Donc oui, ça c'est bien, vous avez fait ci. Là, pendant le confinement, il y a eu une mobilisation collective. Certes, certes, mais avoir un toit sur la tête, c'est pas seulement l'hiver qu'on demande une solution. Ou pas simplement parce qu'il y a une crise sanitaire et un foutu virus qui circule. C'est tous les jours dont on a besoin d'un toit sur la tête, chacun d'entre nous. Et donc, ne jamais renoncer. Ne jamais, jamais renoncer. Et finalement, cette force, elle est puisée où ? Elle n'est pas puisée dans l'idéologie. Elle n'est pas puisée seulement dans la vision du monde. Elle est puisée dans ce que chaque acte de chaque individu permet de faire dans la fraternité, dans la solidarité vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que, nous, on nous dit souvent, mais vous n'avez pas, ça vous épuise pas, ce combat ? Ben non, parce que à chaque fois qu'une personne sort de sa situation de mal logement, à chaque fois qu'une famille sort de sa situation de pauvreté, c'est une énorme joie. Enfin, je veux dire, et ça donne une pêche incroyable. Sauf qu'il y a beaucoup à faire. Et c'est ça qui peut être usant. Et c'est là où le combat politique doit être mené, en essayant d'associer le maximum de nos concitoyens autour de ce combat, ce juste combat.
Si c'était la guerre, du jour au lendemain, on trouverait tout. Où, monsieur le ministre du Budget, si c'était demain matin la guerre, où trouverait-il l'argent ? De quel droit nous dit-il que ce n'est pas possible de trouver de quoi financer quelques centaines de milliers tous les ans de logements pour tous ? La colère me vient parce que je dis, on est grotesque. Et puis on s'étonne de ce que ça crache tout autour et que ça bave. Mais la France, elle me fait penser à quelques champions beaux, en pleine forme, magnifiques. Tout le monde l'admire et l'aime. Et puis, il a un chancre à une jambe. Et il s'en occupe pas parce qu'elle lui porte pas sur la mine. Ça ne le fait pas être moins joli. Et il en crèvera. Et la France crèvera de voir éclater les colères des casseurs. Les casseurs, c'est pas des voyous, ce sont simplement des désespérés.
I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind.
Abbé Pierre, L'Éternel Révolté, 1912-2007. Avec Axel Brodier-Dolignon, Laurent Desmarres, Jean-Baptiste Héroux, Bruno Morel, Christophe Robert, Jean Rousseau et Jean-Marie Viennet. Remerciements. Les compagnons d'Emmaüs, André et Jean-Pierre, Florine Cateau, Emmanuel Larcher, Brigitte Marie, Denis Lefebvre, Yves Lombard, Sandrine Jolivet et Jean-Paul Moncalaflores. Prise de son, Stéphane Beaufis, Clément Daté, Cédric Châtelut et Guillaume Leplège. Mixage, Claire Levasseur. Archivina, Sabine Dahuron et Marie Chauveau. Documentation, Anne-Lise Signoret. Coordination, Christine Bernard, assistée de Sylvia Favre. Un documentaire d'Hélène Bigot, réalisé par Julie Bérissy.
Vous trouverez bibliographie, podcast, réécoute et bonus sur la page de Toute une vie sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Sylvia Favre, Anne-Lise Signoret de la Bibliothèque de Radio France, Elna Fraisse et moi-même vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année.